Alors, la distinction du dire et du dire s'applique à au fameux aphorisme « moi, la vérité, je parle ». C'est le mot de la chose freudienne. Qu'est-ce qu'on en a retenu ? On en a retenu, au fond, la subversion freudienne. Le fait que Freud a démontré que dans les énoncés de l'analysant, ceux qu'il veut transmettre, ceux qui lui viennent à l'esprit, un autre texte est latent, le texte de la vérité inconsciente, qu'il ne sait pas le sujet qui dit « je », et que Freud nous a appris à extraire par voie de déchiffrage et interprétation. Et Lacan a ajouté métaphore, métonymie, rhétorique et tout ce qu'on veut, et qu'il a écrit dans sa ligne supérieure du graphe. Bon, alors, tout cela, au fond, c'est le texte de la vérité, mais le dire de la vérité. Avec ce texte de la vérité, je notais qu'on pouvait dire au revoir à Emmanuel Kant, hein, et à son « je pense » doit pouvoir accompagner toutes mes représentations. Il y a du « je pense » qui n'accompagne pas mes représentations. Bon. Cependant, qu'on dise la vérité ne doit pas rester oublié, et il faut injecter donc le « qu'on dise » dans la phrase « moi, la vérité, je parle ». Injecter l'acte de parler plutôt que de se taire. La vérité en acte à côté de son texte. Et au fond, Lacan l'a dit explicitement, ça. La chose freudienne, la vérité, ne va pas sans dire, elle non plus. Par conséquent, à l'inconscient qui parle, et les visions le répètent, hein, l'inconscient parle. L'inconscient qui parle, il faut lui demander plus que ce qu'il dit. Il faut lui demander pourquoi il le dit. Aucun signifiant jamais ne pourra l'expliquer. Ce n'est pas le signifiant qui peut répondre là. Il faut entrer dans ce que Freud appelait au fond le registre économique. Quand Lacan insiste pour souligner que la vérité, la chose freudienne, donc, ne va pas au-delà d'un ni-dire, cette affirmation concerne le texte de la vérité. Télévision le précise, qui dit « elle n'est que mi-dite car les mots y manquent ». Bon. Alors, quelle est la fonction propre, non pas de la vérité mi-articulée en mots, mais de son dire ? Quelle est la finalité spécifique du dire acte, s'il y en a une, par rapport aux effets de langage, qui sont tous, les effets de langage, des effets de négativation ou de fixation de la jouissance. Et quel est plus précisément le rapport du dire acte à la jouissance, au désir et à la jouissance, je pourrais dire. Alors, c'est à ces questions qu'il faut répondre. Mais, avant d'en dire un petit quelque chose, je fais un détour par l'usage substantivé du dire. Le dire, un dire, dit Lacan. Le dire substantif n'est pas un dit et n'est pas le dire acte. Le substantif n'est pas un énoncé proféré par le sujet, mais un énoncé inféré à partir des dits. Il est accessible donc par la logique et il est à distinguer dans chaque cas des dits de celui qui parle. Lacan a donné un exemple, le dire de Freud, et sur ce point, il est non seulement explicite mais didactique. Par chance. Et il nous dit, le dire de Freud s'infère de la logique qui prend de source le dit de l'inconscient. C'est en tant que Freud a découvert ce dit qu'il existe. Son dire existe parce qu'il a découvert le dit de l'inconscient. Or, le dit de l'inconscient, comme je l'ai rappelé, eh bien, c'est le 1 de la fonction phallique. Ce que tous les dits de Freud indiquent, en effet, l'inconscient dit la jouissance castrée. Du coup, c'est logique, on infère de l'indire du phallus que Freud a mis en évidence, on infère qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Hein ? Le phallus est l'objection au rapport, Lacan l'a dit et répété. Et Lacan peut dire que le dire de Freud, qu'il n'a jamais proféré, c'est « il n'y a pas de rapport sexuel », parce que ça s'infère de tous ces dits. Bien. Avec cet exemple, je crois qu'il n'y a donc pas de difficulté à saisir ce qu'est le dire utilisé substantivement. Inférer des dits. C'est au fond un dire, c'est la formule unique, non énoncée, mais énonçable par voie logique, qui existe elle aussi à tous les dits et qui les constitue en ensemble. Et donc, le dire substantif, il s'appelle l'indire. L'indire, expression que Lacan introduit dans le petit texte au pire, et qu'ensuite il va rebaptiser symptôme plus tard. On comprend que, contrairement à l'acte de dire, qui ne peut manquer à aucun dit, puisqu'il en est la condition de tous les dits, pas de dit sans dire, le dire substantif, qui donne l'unité de tous les dits, peut manquer. S'il manque, la série des dits, évidemment celle qui nous intéresse, la série des dits, c'est les dits de l'association libre analysante, hein. S'il manque, la série des dits reste incomplète. Et par défaut de ce que Lacan appelait auparavant le point de capiton, hein, par défaut donc de se dire, reste seulement la série des dits, point de suspension à l'infini. L'interminable, le défaut du dire, existant au dit, programme l'interminable des dits. C'est d'ailleurs, selon Lacan, un peu ce qui s'est produit avec l'enseignement même de Freud. Du côté où on a méconnu le dire de Freud. Vous savez l'insistance de Lacan dans l'étourdi pour dire que la psychanalyse ne peut pas se maintenir sans le dire de Freud. Il n'y a pas de rapport sexuel. Et il dit que la stagnation de l'expérience, là où on méconnaît son dire, le confirme. La stagnation de l'expérience, là où on méconnaît son dire, ça désigne l'IPA. Ça désigne là où on a pensé que la psychanalyse pouvait être servante de l'oblativité génitale et de la norme sexuelle. Alors, dans l'analyse, un dire peut venir à exister. Il peut venir à exister. À partir des dits analysants, ces dits dont on ne peut pas se dédire, peut surgir, je cite Lacan, un dire qui ne va pas toujours jusqu'à pouvoir exister au dire. Mais il peut surgir, le dire, éventuellement. Et il ajoute Lacan, le dire ne va pas toujours jusqu'à pouvoir exister au dire, à cause de ce qui vient au dit comme conséquence. C'est là l'épreuve où, dans l'analyse de quiconque, si bête soit-il, un certain réel peut être atteint. C'est la page 25 de Encore. Bon, il y a beaucoup de choses à commenter. Il évoque la bêtise par mépris pour quiconque, mais parce qu'il vient d'évoquer le signifiant bête. Hein. Alors, on pourrait aussi se questionner pourquoi ce qui vient comme conséquence au dit peut empêcher la production, l'existence du dit. Je vois deux réponses possibles. Ça, c'est pas mon objet, mais je vois deux réponses possibles. À cause des conséquences thérapeutiques. Les conséquences thérapeutiques qui viennent au dit, parce que le dit est thérapeutique, hein. Ça fait pas de doute. À cause des conséquences thérapeutiques, il arrive que le sujet arrête son analyse sans la pousser au-delà. Puis l'autre réponse possible, c'est que le dit de la vérité, c'est de la jouissance. Et que cette conséquence-là ne pousse pas à en sortir. En tout cas, il est certain que Lacan a cette idée qu'un dit peut exister, qui va constituer au fond l'ensemble des dits analysants, donner l'unité de l'ensemble des dits analysants. Alors, vous voyez, le 1 de l'un dire n'est pas le 1 de la fonction phallique, quoiqu'il ait également rapport à la jouissance. Que Lacan ait pu le nommer ensuite saint homme fait conclure qu'au fond, ce un dire, c'est le nom du métabolisme de la jouissance d'un parlant. Je dis métabolisme pour indiquer, disons, la varité de la jouissance, puisqu'il y a la phallique, l'opaque du symptôme, et celle du sens. On peut dire que l'un dire, il définit ce que je peux appeler la jouissance nodale. Le un de jouissance nodale, puisque dans le neuronien, chacune des jouissances, qui sont trois, limite les deux autres. Et que c'est ce métabolisme que l'on corrige éventuellement dans une analyse, par suture et épissure, comme a dit Lacan. Alors c'est ce un dire que parfois nous idéalisons, que nous attendons de l'analyse accomplie, car il permet d'arrêter l'association libre. C'est une différence avec le dire acte, hein ? Pas de dit sans dire acte, c'est une implication logique qui ne peut pas rencontrer d'exception dès qu'il y a des dits. Mais des dits sans un dire, c'est possible. Dans le timing de l'analyse, le dire acte et l'un dire ne se placent pas de la même façon. Dans le timing, hein, je ne parle pas de la synchronie. Dans le timing, le dire acte, il est au début et tout au long. Il suit, au fond, les dits analysants. Il ouvre et accompagne l'espace du transfert. Tandis que l'un dire, qui capitonne l'ensemble, voilà, il apparaît plutôt à la fin, dans une phase terminale. Là, il faudrait sûrement développer une parenthèse, je l'indique juste sans la développer. L'incidence de l'analyste est à ne pas oublier non plus dans ses affaires. Hein. L'association libre est suspendue au dire acte. Oui, mais ça ne se fait pas tout seul. Le dire acte de l'association libre, et la première fonction de l'analyste, c'est de causer ce dire. De même, l'un dire à produire lui-même ne va pas sans l'analyste de la même façon, au fond, qu'il a fallu Lacan pour formuler le dire de Freud. Hein? Alors, oui, la question est donc, quel est le lien entre le dire acte, l'acte de langage et la jouissance? Quel est son lien avec l'un dire du métabolisme de la jouissance, du métabolisme borroméen, hein, si vous m'avez suivi. Eh bien, Il est certain que le second, l'un dire ne va pas sans le premier, bien sûr, mais sont-ils de la même étoffe? Jouir et dire n'apparaissent pas immédiatement appartenir au même registre. Pour jouir, il faut un corps, et le dire, ça semble venir du sujet existant. J'ai d'ailleurs jusqu'à présent accentué la distinction. Je l'ai accentuée quand je commentais la différence entre symptôme et symptôme, telle que Lacan l'a donnée au départ. Le premier, le symptôme, étant défini comme une formation de jouissance. Et le second, le symptôme, quatrième du nœud, étant défini comme un dire. Et puis, on peut aussi appliquer cette distinction à propos des discours. En fait, aujourd'hui, j'aurais tendance à tempérer cette différence. Parce que si l'un dire, qui est le un de jouissance nodale, est-ce que le un dire ne donne pas en fait la raison du dire acte? Celui-ci, le Dirac, étant indissociable de ce à quoi aboutit l'analyse, à savoir l'un dire qui fait l'unité des jouissances diverses d'un individu. Lacan notait cette chose très simple, que quand une biographie est bien faite, sortons de l'analyse, quand une biographie est bien faite, on peut y lire la phrase qui a orienté toute une vie et qui donc donne l'unité de toutes les options vitales de celui dont on parle, de ses dits comme de ses actes. Je crois qu'il évoque là l'un dire, ce qu'il appelle l'un dire supérieur au sujet, soit inconscient, qui aura présidé à toutes ses conduites et sans doute à son dire acte aussi. Tout ceci va dans le sens plutôt d'affirmer que l'on parle. Pourquoi me dis-tu que, hein, souvenez de la citation, on parle dans l'analyse, non sans la contribution de l'analyste, mais on parle pour faire exister l'un dire de jouissance. Le dire revient, dit Lacan, de l'être que je situe de l'existence. Soit l'être situé de l'existence, c'est l'être non représenté par le signifiant. Et dans l'analyse, c'est de lui, de ce un dit, de ce dire acte, que se fait le trajet, parce que l'analyse est un trajet, le trajet qui va vers le un dit. C'est la jouissance qui détermine l'un dire. Que détermine l'un dire? La jouissance que détermine l'un dire, c'est elle qui répond au pourquoi dire. Pourquoi dis-tu? L'acte énonciateur et le un de tous les énoncés étant indissociable. Ça se vérifie d'ailleurs au niveau de la structure des discours. Puisque dans les discours, si je suppose que vous connaissez l'écriture des discours, dans les discours, la division de la jouissance entre production et vérité, qui est écrite à la ligne inférieure, cette production est déterminée par quoi? Par le terme qui vient à la place du semblant. Mais qu'est-ce qui fait venir le terme, un terme à la place du semblant? C'est le dire qui préside au discours. C'est la partie masquée dans l'écriture des discours, l'incidence de l'acte du dire. On doit bien supposer que ce dire acte, il est animé donc, ce dire qui se situe de l'existence, on doit bien supposer qu'il est animé par, je ne sais pas comment dire, si je dis un désir, une volonté, une visée, enfin, il veut quelque chose. Et donc, il faut chercher la réponse au kevoy, qui a toujours été cherché dans le texte de la vérité. Il faut le chercher dans le dire de l'analysant. Donc, je vais terminer sur des considérations qui sont rapportées à la psychanalyse. Qu'est-ce qui change dans la psychanalyse quand cette dominance du dire existentiel, on cesse de l'oublier, si on y arrive, et si l'on en saisit la dimension fondatrice. Je vais faire remarquer déjà d'abord que ça change le statut de toutes les affirmations théoriques de la psychanalyse. Et ça n'a pas échappé à Lacan, évidemment. Toute proposition qui se présente dans la forme de l'affirmation universelle est mise en question par le condivisé. Et Lacan a tiré la conséquence, et de façon très discrète et très simple, à plusieurs reprises, il y a beaucoup de cas, mais notamment à propos de l'inconscient réel. Au moment où il affirme l'inconscient réel, il ajoute « si on en croit ». Alors ça, vous savez, scier la branche, scier les pieds de la table. Si on en croit, alors avec ça, on est très au-delà de la subversion freudienne. La subversion freudienne était une subversion puisqu'elle posait que je ne sais pas ce que je dis, que je ne sais pas le vœu qui m'anime. Il mettait fin à l'illusion d'être maître de soi comme de l'univers. Mais quand même, Freud y croyait que c'était de la science. Il croyait que ça avait statut de science, sa découverte. Avec Lacan, et la contingence existentielle du dire, c'est vraiment le point final, majeur, mis à la scientificité possible de la psychanalyse. Et Lacan applique cette contingence existentielle même à la mathématique, dans l'étourdi, ce qui paraît le plus rassuré par ailleurs. Ce qui fait que le convise suspend tout ce qui s'élucide, que ce soit dans l'analyse, que ce soit dans la science linguistique, l'applique à la linguistique lacancienne, ou que ce soit même dans la mathématique, à la contingence d'un « ce qui cesse de ne pas se dire ». Que ça cesse de ne pas se dire. Bon, on pourrait la développer longuement, mais je l'indique simplement. Alors, deuxièmement, ça change, je crois, les finalités de l'analyse. Ça implique que l'interpréter, l'acte d'interpréter, qui doit aller à la cause, et ça dit toujours, depuis Freud, on a l'idée que l'acte d'interpréter doit aller à la cause, eh bien, cet acte d'interpréter ne peut pas se réduire à l'interprétation sémantique qui cible le « ce qui se dit ». Même si on y inclut ce qui ne s'y dit pas. D'ailleurs, elle doit aller à la cause du dire acte, sans laquelle rien ne se dit. Je laisse de côté le dire de l'analyste. Je m'arrête un peu au dire analysant, puisque le dire analysant est demande. Alors même que tous les dits analysants ne sont pas des dits de demande. Il y a notamment tous les dits qui racontent ce qui se passe ou ne se passe pas dans l'actuel, ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé dans le passé, puis les dires d'espoir, etc. Il n'empêche, le dire unique, l'un dire analysant est demande. Il n'y en a qu'un. Là-dessus, Lacan est tout à fait catégorique et convaincant. On pourrait donc parler pour chacun de son, sa une demande, avec une majuscule comme Lacan le met à le dire. Ce dire de demande est impossible à satisfaire, mais il est à interpréter, dit Lacan. La demande à interpréter, dans la postface, plus précisément la demande à lire, puisque l'interprétation est une lecture. Qu'est-ce à dire ? La demande à interpréter, ça veut dire que l'interprétation cible la une demande et la jouissance qui s'y requiert. L'interprétation cible toujours la jouissance et cible la jouissance que la demande analysante requiert. Plus précisément, Lacan dit, l'objet est l'oreille par où la demande à interpréter en vient au plus de jouir. Surprise pour ceux, s'il y en a, qui en sont restés à la direction de la cure et qui peuvent s'imaginer que la direction de la cure disait le contraire. Apparemment, puisque elle disait non-réponse à la demande intransitive, qui est demande de rien d'autre que présence de l'autre, et interprétation du désir. Voilà ce que disait la direction de la cure. Doit pointer donc vers ce qui manque. Interpréter le désir, c'était cibler le manque inhérent à celui qui parle, et dont le signifiant est le phallus. En fait, en janvier 73, date de la phrase que je viens de lire, eh bien, ça dit presque la même chose, mais complété, et donc ce n'est plus du tout la même chose. On part de l'effet de langage, écrit désormais par l'objet, l'objet qui manque. Le dire de la demande, comme le désir qu'elle porte, trouve son ressort dans l'objet qui manque, pas de doute, et elle va vers l'objet qui ne manquerait pas, ce que j'appelle la jouissance requise, le plus de jouir. Et l'interprétation est censée faire paraître. De ce qui manque à ce qui ne manque pas, c'est un sacré rail, en effet, et même un ravinement, dit Lacan. Autrement dit, un trajet écrit dans le signifié, quand l'analysant tâche de dire ce que veut la chose qu'il est, ce qu'il veut en tant que chose et qu'il ne sait pas, ce qui s'écrit par la parole analysante, par le dire de la demande, et comme une coulée de jouissance. Voilà pour le complément ajouté à la direction de la cure. Lacan dit « stance par en dessous ». Stance évoque la substance jouissante. Hein. Radiophonie disait déjà de la métonymie, quel est le métabolisme de la jouissance. Mais « stance à lire par en dessous » ajoute quelque chose, ajoute la référence à l'écrit. Ces développements impliquent que le sémantique de ce qui se dit s'interprète toujours par le plus de jouir. Je vous fais remarquer que ce n'est pas le dernier mot de Lacan. Loin de là. Puisque l'année d'après, dans le séminaire encore, il va poser que le savoir se jouit, le signifiant se jouit. Et donc la stance, si le signifiant se jouit, la stance ne va pas être en dessous, elle va être en dessus, dans l'étagement du signifiant et du signifié. Parce qu'en dessous, c'était l'étage du signifié. Et donc, ce sera une jouissance déconnecté du sémantique. On pourra distinguer désormais une jouissance non sémantique et même une jouissance opaque de la lettre éventuellement et puis de l'autre côté la jouissance en deux mots avec le problème dès lors de leur nouage qui est finalement la visée de l'acte, le nouage. Changement de perspective quand même considérable. la jouissance divise le sujet. Lacan l'a dit très tôt, toujours, mais l'acte vise ce qui surmonte la division de la jouissance, sans la supprimer d'ailleurs, sans la supprimer, ce qui la surmonte par le nouage qui fait le un, et qui est au fond la visée du dire acte. Alors je vais terminer ces considérations de Lacan relativement complexes en évoquant une remarque très simple et qui même pourrait paraître simpliste que Lacan fait aux États-Unis quand il dit qu'une analyse n'a pas à être poussée trop loin. Vous voyez que ça ne consomme pas tout à fait à ce que l'on dit aujourd'hui. Hein ? Et il précise, quand le sujet, tout le monde connaît ça, quand le sujet est heureux de vivre, pense qu'il est heureux de vivre, eh bien c'est assez. Alors on pourrait dire quand même quel ravalement théorique vers le thérapeutique. Mais, je vous le demande, qui peut être heureux de vivre au terme d'une analyse où on est venu parce que l'on était d'une façon ou d'une autre malheureux de vivre, n'est-ce pas? Sinon, qui peut être heureux? Sinon, celui ou celle qui en est venu à se satisfaire du un dire nodal produit par son analyse. Et je crois que finalement, derrière ce simplisme, s'en satisfaire ne veut pas dire être à même d'en donner la formule. C'est autre chose. Ici, la satisfaction pourrait bien signer l'élaboration. Il y a, je crois, dans cette phrase apparemment simplette, le même type d'inversion que dans la préface à l'édition anglaise des Écrits. Je termine là-dessus, vous connaissez l'inversion, je l'ai tellement commentée. Lacan pose que c'est la satisfaction qui est signe index de la fin, signe du savoir acquis, et pas le savoir acquis directement. Savoir acquis mais informulable, expérimenté, sur la division entre vérité et réel, informulable, mais dont l'effet de satisfaction atteste. Donc cette inversion de la problématique, c'est la satisfaction qui atteste du savoir, et pas l'inverse. Il existe aussi le savoir satisfait ou insatisfait, mais cette affirmation qu'il y a une satisfaction qui atteste de l'élaboration de savoir, qui se trouve dans la préface, je crois la retrouver dans cette remarque, quand il est heureux de vivre, et bien ça suffit. Voilà.